Alors bonjour et bienvenue à cette troisième grande conférence des Journées de l'économie qui va être consacrée à la finance et développement durable. Vous entendez ou... Ah.
T'appuyer sur le...
Non, en principe, ça, si je me rapproche, ça va mieux comme ça. Voilà. Bon. Alors vous allez pardonner nos tenues un peu emmitouflées, mais en dépit du réchauffement climatique, j'avoue que la température est encore un peu basse. Donc nous allons garder écharpe et manteau. Alors, pour ces deux heures qui nous réunissent, je vais d'abord vous présenter les personnes qui sont sur cette tribune. Ensuite, Roger Guenry fera une première conférence, suivie d'une autre conférence par Olivier Godard. Et ensuite, nous ferons une table ronde avec les questions de la salle. Alors, de droite à gauche, donc, vous avez Roger Guenry, professeur au Collège de France, qui est président du comité scientifique des Journées de l'économie. Jean-Michel Lasserie, vous êtes professeur à Dauphine et responsable du comité de pilotage de la chaire Finance et développement durable. Olivier Godard, directeur de recherche au CNRS, professeur à Polytechnique, et vous travaillez sur le rapport environnement et développement depuis 1972. On n'appelait pas encore ça développement durable. Philippe Tourtelier, vous êtes député Ille-et-Vilaine et vous avez fait partie de la mission effet de serre. Et Arnaud Berger, vous êtes responsable du développement durable à la Banque Populaire. Alors, le professeur Guenry, vous allez commencer par cette table ronde par une conférence intitulée « Économie et écologie, peuvent-elles faire bon ménage ?»
Je vais essayer, mais...
C'est gai, oui, a priori. 30-35 minutes, cher professeur.
Oui.
Très bien.
Vous me
oui, oui, je... absolument.
Oui, merci. J'ai donc pris ce titre qui est un peu englobant, peut-être plus large que finance et développement durable, même si évidemment j'en reviendrai un petit peu sur la problématique finance et développement durable. Donc écologie et économie peuvent-elles faire bon ménage ? Mon exposé aura trois parties, hein, il est relativement informel. Vous pourrez le suivre en regardant les transparents qui vont apparaître. La première partie, je la consacrerai à la tension économie-écologie. La tension économie-écologie qui est évidente lorsqu'on s'intéresse au problème du réchauffement climatique. Et je reprendrai l'exemple de l'effet de serre. Donc je vais vous dire, je vais peut-être rappeler un petit peu ce qu'est l'effet de serre et illustrer ce que je viens de dire sur la tension entre l'économie et l'écologie, entre le développement industriel et le développement des émissions qui est au cœur du problème. Alors, le constat, si je veux parler donc des problèmes de réchauffement climatique et d'effet de serre, c'est que l'atmosphère, une partie des radiations qui sont émises par le soleil sont... capturé par l'atmosphère grâce à la présence de gaz à effet de serre qui renvoie vers la Terre les émissions réémises par la Terre. Il y a un certain nombre de gaz à effet de serre. Là, j'ai indiqué les principaux qui sont le gaz carbonique. On parlait du gaz carbonique autrefois, on l'appelle maintenant dioxyde de carbone, donc je varierai. Le deuxième, par le degré d'importance, c'est le méthane. Il y en a d'autres, il y a par exemple le protoxyde d'azote. Alors la physique de l'effet de serre, c'est quelque chose qui n'est pas contesté. C'est connu depuis longtemps, Fourier en avait parlé, et au début du siècle, Arrhenius, qui a eu le prix Nobel de physique pour toute autre chose, avait fait des calculs sur le réchauffement de la planète qui donnent des indications assez voisines de ce qu'on a obtenu aujourd'hui avec tous les modèles qu'on a mis en place. Donc il y a peu de doutes. L'existence de cet effet de serre n'est pas contestée, pas contestable. Elle est d'ailleurs bénéfique. S'il n'y avait pas de gaz à effet de serre, notre animatrice aujourd'hui n'aura pas seulement besoin d'un manteau, mais de moins de 4-5, puisque la température moyenne sur cette planète serait inférieure de 18 degrés à ce qu'elle est actuellement. Donc l'effet de serre est un effet bénéfique. Le problème est qu'il peut devenir maléfique lorsque ça croît les concentrations. Alors vous voyez sur le graphique ici, l'accroissement des concentrations en gaz carbonique en méthane et en protoxyde d'azote, qui sont d'ailleurs des accroissements relativement parallèles, hein, depuis 1700. Et vous voyez qu'il y a un accroissement qui est lié. Le début de cet accroissement, c'est vraiment le début de la révolution industrielle. Cet accroissement est corrélé avec le développement industriel, c'est tout à fait clair. Comme disent joliment les collègues climatologues, hein, c'est un effet d'origine anthropique. Alors ça veut dire quoi que c'est d'origine anthropique? Ça veut dire que c'est nous, c'est les hommes qui sont responsables. Ils sont responsables de par l'utilisation plus intensive et de plus en plus intensive des énergies fossiles. C'est-à-dire des énergies fossiles, c'est le charbon, c'est le gaz, c'est le pétrole. Donc le constat est clair. Voilà là. Il y a des petits problèmes de stabilisation de l'image, mais voilà ici quelque chose qui illustre, sinon la causalité, ça, on peut parfaitement discuter, mais en tout cas la corrélation qu'il y a entre accroissement de la concentration du gaz carbonique dans l'effet de serre, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, hein, donc, qui est spectaculaire depuis le début de l'ère industrielle, et accroissement de la température moyenne sur la planète. Alors là, c'est les températures sur le graphique qui est à votre gauche. Il s'agit des températures reconstituées sur une longue période. Sur la droite, avec des couleurs roses, vous avez les températures plus récentes. Et quand vous passez au bas de ce transparent, vous voyez des barres verticales qui indiquent l'accroissement de la concentration des gaz à effet de serre en partant de l'ère pré-industrielle, en arrivant à aujourd'hui, là où on frôle 400, alors il y a 400 ppmV, les chiffres qu'on met dépendent des conventions qu'on fait. Soit on met en gaz carbonique, soit on met en équivalent gaz carbonique, c'est-à-dire qu'on tient compte de la présence des autres gaz à effet de serre en leur donnant un certain coefficient d'équivalence au gaz carbonique, coefficient qui est calculé selon des méthodes sophistiquées mais discutables. Donc je n'insiste pas beaucoup sur les chiffres parce qu'ils ne sont pas toujours comparables lorsqu'on lit un journal ou qu'on regarde des rapports. Il y a en équivalent CO2 et en CO2, ce n'est pas la même chose. Donc j'éviterai de parler trop des chiffres là-dessus. Alors ce que vous voyez ensuite, c'est des extrapolations. Des extrapolations pour 2100. Extrapolations pour 2100, donc en... Et selon que l'on est très sage, c'est-à-dire qu'on réussit à mettre en place une politique climatique extrêmement efficace, ou que l'on est, comme on dit, que l'on, c'est le scénario au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on ne fait rien, business as usual, disent les anglo-saxons. Hein. Et puis il y a encore des scénarios plus catastrophiques qui nous feraient passer de la zone des 200 parties par million en volume à 700-800 parties par million en volume en 2100. Alors ça, c'est un peu les scénarios catastrophes. On a parlé de scénarios Frankenstein dans les journées précédentes. Il y a un petit peu de ça. Alors sur la droite, vous voyez, lié à ces différents scénarios d'émissions de gaz carbonique ou d'émissions de gaz à effet de serre, vous voyez des scénarios d'accroissement de température entre aujourd'hui et 2100. Alors la température dont il s'agit, c'est la température moyenne sur la planète. Elle recouvre de grandes différences, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on peut retirer de ce graphique? C'est d'abord, selon que l'on est sage ou pas sage, il se passera des choses. Les modèles, en tout cas les modèles des climatologues nous prédisent qu'il se passera des choses assez différentes. Deuxième enseignement, il y a beaucoup d'incertitudes. Vous voyez, alors soit en regardant complètement sur la droite du graphique, quelque chose qui ressemble à la variance des évaluations. Donc de grosses incertitudes qui sont liées, alors cette fois non pas au niveau d'émission puisqu'on est à scénario donné, mais qui sont liées à notre compréhension des effets climatiques. Troisième point, c'est que même dans les scénarios relativement bas, il peut se passer des choses qui sont relativement spectaculaires. Et par spectaculaire, je ne veux pas dire très agréable. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de scénarios ici où là, il est possible, avec des probabilités qui ne sont pas du tout négligeables, que la température sur cette planète s'accroisse de 5 degrés en moyenne. Alors vous allez dire, c'est pas grand-chose, 5 degrés, c'est la différence entre la différence moyenne entre Helsinki et Nice, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ce soit juste. Hein. Mais 5 degrés, c'est aussi la différence de température entre aujourd'hui et la fin de l'ère glaciaire, il y a environ 10 000 ans. Hein. Époque à laquelle Lyon devait être couvert de glace. Donc 5 degrés de température moyenne sur la planète, ça peut vouloir dire que, des changements tout à fait considérables. Donc voilà un petit peu ce retour sur l'effet de serre. La corrélation, dont on dit ici qu'elle est causalité, dont les modèles climatologiques nous disent que ce n'est pas une corrélation, mais que c'est que l'accroissement des concentrations des gaz à effet de serre va accroître les températures. Et donc, je vais en dire un tout petit peu plus sur la tension économie et écologie, hein, parce que tout ceci est évidemment lié au développement industriel. Premier transparent qui indique les aspects sectoriels. Là, c'est la. Vous voyez les émissions de dioxyde de carbone, donc de gaz carbonique, selon les secteurs. Alors, vous avez 4 secteurs principaux, hein, l'énergie, les transports, l'industrie, agriculture plus résidentielle. Le premier graphique, c'est la France, et le deuxième, c'est la moyenne des pays industrialisés. Alors, il y a un effet. La France a un taux beaucoup plus faible en ce qui concerne l'énergie, c'est l'effet parc nucléaire. Mais si on oublie ça, il y a pratiquement 4 sources d'émissions de gaz à effet de serre, à peu près égales, hein, qui sont l'énergie, les transports, l'industrie et l'agriculture plus résidentielle. Premier aspect. Donc, responsabilité partagée entre les secteurs. Alors, c'est toujours le même graphique. Deuxièmement, qui émet au niveau international, donc les aspects internationaux de cette tension, eh bien, grosso modo, on émet 7 gigatonnes, 7 milliards de tonnes de carbone par an, peut-être un peu plus, parce que mes chiffres doivent dater un peu, et malheureusement, ça ne s'est pas ralenti. C'est-à-dire qu'en moyenne sur cette planète, un habitant de cette planète est responsable de l'émission d'une tonne de carbone par an. Alors, mais c'est très variable selon les zones du monde, et comme vous allez le voir un petit peu éventuellement sur le niveau de développement, selon le type de développement choisi. Par exemple, c'est 6 tonnes par tête pour les États-Unis, champions du monde. Ça augmente assez rapidement, mais c'était 0,3 tonnes pour l'Inde, en tout cas il y a quelques années, c'est peut-être passé à 0,5 maintenant, c'est-à-dire quand même nettement 20 fois moins. C'est 1,3 tonnes pour la France, 1,7 tonnes pour la France et 2,3 tonnes pour un Européen moyen. Donc vous êtes responsable en moyenne. Hein, essayez de penser à votre petit tas de charbon d'une tonne à côté de vous que vous envoyez tous les ans dans l'atmosphère. C'est quand même assez impressionnant. Alors naturellement, c'est lié au développement, comme le suggère ce graphique, et comme le suggère encore mieux le graphique suivant. Vous avez ici un graphique dans lequel vous avez en abscisse le PIB par tête et en ordonnée les émissions en tonnes de carbone par tête. Et donc, vous voyez que ici, en haut à droite du graphique, vous voyez la position assez excentrée des États-Unis. Vous voyez ensuite au-dessus de la première ligne les pays qui sont riches, entre guillemets, développés, et qui émettent beaucoup. Et en fait, cette première ligne distingue ce qu'on appelle dans le protocole de Kyoto l'annexe B des autres pays. L'annexe B, c'est ceux qui ont pris des engagements quantitatifs pour la période Kyoto. Et vous voyez par contre, plus proche de l'origine, tous les pays en développement. Pays en développement qui sont caractérisés par de faibles niveaux d'émissions et des produits par tête faibles. Alors, vous trouvez la Chine quelque part, je ne suis pas sûr qu'on le voit très bien. Ce graphique est évidemment intéressant parce qu'il souligne de façon tout à fait claire ce que je viens de dire, mais il souligne également que dans la période où nous nous trouvons, le vrai problème est de savoir si, en se développant, en faisant l'hypothèse que les pays émergents vont se développer rapidement, hypothèse qui était celle du maximum de vraisemblance il y a encore quelques temps, mais j'espère qu'elle va le rester. Si en se développant, ils vont accroître leurs émissions ou réussir à faire un développement qui soit économe en carbone. Donc voilà la première dimension de la tension économie-écologie. La les émissions de gaz à effet de serre sont liées au développement et sont liées au développement industriel. Deuxième tension, c'est une tension que j'appellerais peut-être un peu intellectuelle, qui nous amène un petit peu au cœur conceptuel de notre débat. C'est, au fond, est-ce qu'il n'y a pas une opposition assez fondamentale entre le temps long, qui est nécessairement le temps de l'écologie, et le temps court de l'économie. Alors, cette tension apparaît dans tous les débats qu'il y a eu entre économistes sur l'opportunité ou l'intensité des politiques climatiques. Et ces débats ont eu un écho médiatique important affaibli au moment de la publication du rapport Stern. Parce que le rapport Stern a fait beaucoup de choses, mais une des choses qu'il a faites, c'est une des raisons de son succès, c'est qu'il a fait un calcul économique assez standard, un coût-avantage, des politiques climatiques. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, une politique climatique, ça évite des dommages. Ces dommages, je les évalue, je leur donne des valeurs monétaires en faisant des raisonnements qui sont des raisonnements habituels des économistes. Et puis je le compare au coût des politiques climatiques et je conclue, avec une certaine habileté dans la présentation d'ailleurs, mais ça correspond tout à fait à ses calculs, et je conclue que les politiques climatiques sont très avantageuses. Alors pourquoi... Mais évidemment, dans le calcul économique du rapport Stern, il y a quelque chose auquel les économistes accordent de l'importance, ça s'appelle le taux d'actualisation. Et le rapport Stern utilise des taux d'actualisation faibles. Et je vais dire un petit mot, ça a suscité une certaine controverse dans les milieux académiques. Là, je vous montre un petit peu... ce qui est un petit peu le nerf de ce débat, hein, à savoir que les choses deviennent de plus en plus sérieuses au fur et à mesure qu'on s'avance dans le temps. Ici, c'est un graphique qui est tiré du rapport Stern et il indique un certain nombre de catégories de, disons, dommages au sens large qui sont associés au réchauffement climatique. Alors, il y a les effets sur l'agriculture. Hein, l'agriculture, jusqu'à 2 degrés de réchauffement, il y a des pays qui gagnent, il y a des pays qui perdent. Au-delà de 2 degrés, ça devient... très clairement négatif pour tout le monde. L'eau, c'est un très gros problème. Avec le réchauffement climatique, il y a beaucoup de régions qui perdraient éventuellement leur alimentation en eau, en particulier tout ce qui est autour de l'Himalaya. Vous avez les écosystèmes, vous avez les événements extrêmes, cyclones, etc. Et vous avez un certain nombre de risques de changement climatique rapide qui seraient liés à, en quelque sorte, un emballement du processus. Et ce que vous voyez, c'est que ces dommages ou ces risques s'accroissent avec, évidemment, l'accroissement de température sur la planète, ou l'accroissement postulé. Et donc, deux remarques, ces risques, et donc les dommages qui les accompagnent, vont s'accroître au fur et à mesure que le temps passe. Donc, on a à prendre des mesures pour éviter des dommages qui se produiront dans un avenir lointain, hein, qui seront d'autant plus importants qu'on sera plus loin. Donc, problème de comment traite-t-on le présent par rapport au futur. Et deuxièmement, ce qui apparaît aussi, ce que j'avais souligné tout à l'heure, c'est l'incertitude. Si vous regardez ici les variances des changements de température qui sont au-dessus du graphique, vous voyez que l'intensité des dommages dépend beaucoup des hypothèses que l'on peut faire sur les variations de température. Donc, il y a une dimension d'incertitude. Incertitude qui, dans le rapport Stern, est une incertitude qu'il a probabilisée. C'est aussi une des innovations du rapport Stern. Il a essayé de mettre des probabilités là-dessus en regardant ce que nous racontaient les climatologues. Donc voilà la solution du rapport Stern. Donc c'est évaluation économique des dommages. Alors avec les dommages qui sont essentiellement économiques, hein, si on veut les pertes de récolte, on sait valoriser ça. Ça fait partie des choses un peu banales du calcul économique standard. Et j'ai indiqué, mais je l'ai déjà dit, ce qui était vraiment les contributions du rapport Stern, c'est-à-dire que l'aspect synthèse, il reprend beaucoup d'études, il donne un rôle essentiel à l'incertitude, il la probabilise, il fait une évaluation monétaire des dommages. Alors, il dit que ce n'est pas l'essentiel de son rapport, c'est vrai, mais c'est quand même la raison pour laquelle ce rapport a eu autant d'impact, c'est parce qu'il a fait un calcul économique, etc. Donc, avec ses limites et un choix de taux d'actualisation discutable et discuté. Je voudrais juste dire un mot là-dessus, parce que ce sujet m'intéresse particulièrement et que j'ai écrit sur ce sujet il y a quelques années dans la, dans la revue économique, hein, sur un article qui s'appelle « Calcul économique et développement durable », dont je ne ferai la publicité qu'une seule fois. Mais se pose la question « logique économique et intuition écologique sont-elles compatibles ?» Et pour souligner un petit peu cette difficulté, je vais essayer de vous dire... à quel point le calcul économique standard, hein, celui qu'on fait, celui qui est préconisé par, dans le secteur public en France, au moment du commissariat du plan, sur lequel j'ai écrit un certain nombre de rapports dans le passé, qu'est-ce que dit le calcul économique ? Il écrase l'avenir, hein, il dit que dépenser un aujourd'hui doit créer un bénéfice de... Alors ça dépend du taux d'actualisation. Pour que ce soit rentable, dépenser un aujourd'hui doit... créer 14 000 dans 100 ans pour être rentable, avec un taux d'actualisation de 10%. C'est les effets des intérêts composés. Hein. Il y a beaucoup d'histoires très paradoxales et en même temps très éclairantes sur ces histoires d'intérêts composés. Donc 14 000 dans 100 ans, ça fait quand même un problème. Avec un taux d'actualisation de 5%, qui est à peu près ce que préconise le plan aujourd'hui, en tout cas pour un certain nombre de... Autrefois, on était plutôt près de 8%, 10%. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est plus le plan, hein, ça s'appelle le comité d'analyse stratégique. Donc avec un taux de 5%, il faut encore 130 dans 100 ans pour que ce soit rentable, mais encore 17 000 dans 200 ans, dans deux siècles. Avec un taux d'actualisation de 2%, il faut encore avoir un bénéfice de 7,3 dans 100 ans pour juger que c'est rentable. Donc le calcul économique tend à écraser l'avenir. Alors, juste pour faire un lien avec ce qui se passe aujourd'hui et la crise financière, et je ne ferai pas la parenthèse, même si j'aurais très envie de la faire, mais les taux de rendement qui étaient demandés dans le secteur par les actionnaires dans un certain nombre de secteurs étaient supérieurs à 10%. Donc cette tension économie-écologie était particulièrement nette dans la décennie qui a précédé. Donc il ne s'agit pas de l'année. Alors même si d'ailleurs les taux qui étaient demandés par les actionnaires, qui étaient demandés dans le secteur pour la rémunération des actions, semblaient totalement diverger de ce que suggérait la théorie économique à une époque où les taux d'obligations sans risque baissaient, où les emprunts sans risque baissaient. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc évidemment, ça a des effets sur les choix. Le débat sur l'auto-actualisation, il n'est pas nouveau. Moi, je l'ai... J'ai beaucoup débattu des choix de canaux dans ma jeunesse, donc on avait un peu ça, et c'est sur le changement climatique. Alors,
vous avez encore...
Encore combien de temps ?
Vous avez encore 10 minutes.
10 minutes, j'ai encore 2 minutes. Donc, je vais dire, au fond, est-ce que tout ça n'est pas contraire à l'intuition écologique ? Alors, je vais dire que, en fait, non, si on fait bien le calcul économique... Et pour bien faire le calcul économique, il faut tenir compte de trois choses qui sont importantes. C'est que nous faisons l'hypothèse, les économistes qui sont optimistes, plus optimistes que les Français, comme on l'a vu à la lecture du sondage l'autre jour, font l'hypothèse que sur le siècle qui vient, même en étant pessimiste, on aura 1 ou 2% de croissance. Ça devrait pas. Et donc, si on a 1 ou 2% de croissance, notre niveau de vie sera encore multiplié par 2, 3, etc., selon les valeurs que l'on prend. Donc, on sera beaucoup plus riche que l'on est actuellement, si l'on croit. Mais il y a évidemment une différence entre les biens que nous produisons. D'ailleurs, nous ne savons pas la nature exactement des biens qui seront produits dans un siècle. Pas plus qu'il y a un siècle, on ne savait que l'on produirait des téléphones portables ou des ordinateurs aujourd'hui. Mais ces biens dont on fait l'hypothèse qu'ils peuvent être multipliés, hypothèse peut-être d'ailleurs trop optimiste, hein, sont à mettre en face de biens dont la rareté relative est donnée. On n'a qu'une planète, comme dit Joseph Stiglitz. Donc on ne peut pas répliquer les autres biens. Donc il y a certainement dans le calcul économique, c'est très important, on ne peut pas répliquer la planète, on peut peut-être répliquer les autres biens. Deuxième chose, la substituabilité est limitée. Vous ne pourrez probablement pas, il y a des gens qui vous racontent qu'avec l'univers virtuel qu'on mettra en place, on pourra se passer de la nature, c'est quand même extraordinairement peu probable. La substituabilité entre les biens marchands que nous produisons et les biens la nature, notre planète, risque d'être relativement limitée. Elle est incertaine, mais elle est certainement limitée. Et malgré tout, Et si vous mettez ces deux ingrédients, ça change évidemment la vision de la manière dont on pourrait traiter l'avenir. Ça conduit d'ailleurs à des conclusions qui sont plus optimistes pour l'écologie que ne l'est le rapport Stern. Malgré tout, il faut mettre dans le... Il est évident qu'il y a une dimension éthique. Ce que montre cette réflexion sur le calcul économique et actualisation, c'est que très clairement, que si vous vous moquez de ce que devient cette planète dans un siècle, bah, il est probable qu'il ne faut pas faire de politique climatique. Il y a quand même une dimension qu'il faut appeler éthique, je ne sais pas, on pourrait l'appeler métaphysique, on peut l'appeler morale. Il est évident qu'il y a un concernement pour le bien-être des générations futures, enfin qui doit être là pour justifier l'action aujourd'hui. Souvent, j'ai essayé de résumer en quelques mots ce qui me semble le vrai argument pour les politiques environnementales comme la politique climatique, c'est, parce que grosso modo, on dit c'est pas la peine de donner du bien-être à nos descendants qui seront de toute façon beaucoup plus riches que nous. J'ai dit, je crois que le vrai argument, c'est la seule chose qu'on peut donner à nos descendants, dont ils nous seront éventuellement, pour lequel ils auront éventuellement de la gratitude, c'est une planète en bon état. On n'est pas sûr, mais ça peut leur être extraordinairement utile. C'est la chose la plus importante qu'on peut faire pour eux, donc il faut le faire. Voilà. Alors, je vais terminer en disant cette fois, donc en ayant mis la tension économie-écologie sur le troisième point, j'ai essayé de réconcilier un petit peu et dire qu'il y a, l'économie peut être mise au service de l'écologie. Et je vais parler un petit peu dans les cinq minutes qui me restent, si je comprends bien. Je vais parler un petit peu des outils, et ça fera une transition d'avoir avec ce que dira Olivier Godard, qui pourra en dire un peu plus que ce que je ne pourrais en dire, sur les outils économiques des politiques climatiques. Bon, alors premièrement, je vais passer sur les moyens d'action des politiques climatiques, je veux dire les moyens d'action généraux. On peut revenir à des modes de consommation pré-industriels, mais comme personne ne le préconise, si, il y a des gens qui le préconisent, mais ils sont extraordinairement minoritaires, j'en parlerai pas. Et ensuite, les moyens d'action, c'est diminuer la consommation d'énergie, améliorer l'efficacité énergétique, opter pour des énergies moins carbonées. Si pour produire l'électricité, vous mettez du gaz au lieu du charbon, ça améliore les choses. Opter pour des énergies sans carbone, dont une n'est pas très populaire, s'appelle les nucléaires, l'autre le sont plus, sont les renouvelables. Vous pouvez capturer et stocker le CO2, vous pouvez augmenter les puits, en particulier beaucoup d'actions sur la forêt qui sont importantes, etc. Bon, je passerai là-dessus. Et puis plus tard, le salut ne peut venir que de progrès techniques assez majeurs, soit dans le domaine du photovoltaïque, soit dans le domaine de l'hydrogène, soit dans le domaine de la fission nucléaire. Alors, quels sont les instruments des politiques climatiques? Bien, il y a deux types d'instruments que distinguent les économies. Il y a les réglementations. Vous pouvez dire on peut réglementer, donner des instructions sur les émissions aux entrepreneurs, aux ménages, etc. Il y a les instruments économiques. Les instruments économiques, il y en a trois. Les taxes. On parle parfois de la taxe carbone. Dans le Grenelle de l'environnement auquel j'ai participé, on appelait ça contribution climat-énergie pour des raisons que j'aurais plaisir à vous expliquer si on avait quelques temps, mais et c'est pas la même chose que la taxe carbone. On peut faire des subventions et on peut mettre en place des marchés de droits d'émission. Un marché de droits d'émission, ça veut dire qu'on donne aux participants, par exemple aux entreprises, des quotas qu'elles peuvent revendre. C'est-à-dire celles qui peuvent faire mieux que le quota peuvent revendre leur quota à celles qui font moins bien. Alors pour les économistes, disons les économistes publics un peu de la génération précédente, tout ça c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose parce que ça a les mêmes effets à la marge. C'est-à-dire que vous subventionnez, que vous taxez, vous mettez un marché de droits à polluer, ça change le coût à la marge pour l'entreprise. Et les économistes ont tendance à croire que c'est les signaux marginaux qui gouvernent en grande partie les comportements. Chose d'ailleurs qu'on a observé lorsqu'on a mis en place le marché européen des permis d'émission, qui était une confirmation spectaculaire de ça, puisque on a très peu changé les coûts moyens, on a beaucoup changé les coûts marginaux et les prix ont beaucoup changé. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis, j'ai dit un mot de la recherche, bien entendu, là. Au sens où intervention économique sur le système de prix et recherche ne sont pas du tout des substituts, comme nous l'a dit l'administration Bush vers les années 2003, ce sont des compléments. Il faut que l'un et l'autre s'épaulent. C'est parce qu'on met en place des incitations qu'on détermine de la recherche. Alors, je ne dirais pas... je voulais dire un petit mot de Kyoto. Kyoto, il y a quand même une grande novation. Alors, Kyoto, c'est une politique de quantité. et pas une politique de prix. Une politique de quantité, c'est plus lié au marché d'émissions. Une politique de quantité, elle fixe des objectifs quantitatifs. Alors, Kyoto, les pays se sont engagés à un certain volume d'émissions. Et donc, si Kyoto est mis en place et si les engagements sont respectés, le volume d'émissions sera tenu, au moins par les pays signataires. Si on avait mis une taxe généralisée, on ne serait pas sûr que le volume d'émissions soit tenu. Donc, Kyoto accompagne évidemment ceci d'un la mise en place d'un marché global de permis d'émission. C'est-à-dire qu'on peut échanger les quotas sur un marché mondial. Les pays signataires peuvent échanger des quotas. Alors, c'est quelque chose dont on peut discuter assez longuement. Donc, c'est sûrement quelque chose qui essaie de créer un espace de la taxe, ce que j'appellerais la taxe carbone, qui soit un espace large, et sur lequel reviendra Olivier Godard. Alors, on a fait beaucoup de critiques à Kyoto, marchandisation de la nature. Alors, d'une certaine manière, c'est vrai. Les économistes disent que ça baisse le coût global, mais on a fait des critiques qui sont évidemment inadaptées à cette marchandisation de la nature. Par exemple, du genre, ça exonère le principal pollueur, les États-Unis, de faire l'effort qu'ils devraient faire. Alors, cet argument est tout à fait inexact, parce que l'effort que veulent faire les États-Unis, c'est une donnée politique à un moment donné, qui peut dépendre de la nature du président. Et à effort donné, si on met un marché de permis, les États-Unis feront plus d'actions. Parce que ce qu'ils veulent faire, le coût qu'ils sont prêts à consentir est une donnée. Hein. L'efficacité de ce coût au regard des évolutions mondiales, ce n'est pas une donnée, il dépend de l'organisation. Le marché d'émissions permet d'améliorer l'efficacité de ces actions. Donc, on pourrait en dire plus, je suis allé un peu trop rapidement. Ceci m'amène sur le dernier point, qui est un des gros problèmes de Kyoto, c'est évidemment qu'il ne met en jeu que qu'il ne met dans la bataille que les pays développés, alors que tout va jouer dans les décennies qui viennent dans les pays en développement. Il y a bien sûr un certain nombre de mesures qui sont proposées par Kyoto, comme le mécanisme de développement propre, mais qui sont extraordinairement modestes. Et donc on est dans un monde où les réductions les moins chères sont à l'extérieur de l'espace concerné par l'accord. Alors comment faire face à ça? Il y a beaucoup de solutions. Moi, dans le rapport que j'avais présenté au Conseil des économiques, j'avais préconisé, en suivant d'ailleurs des suggestions antérieures, d'intégrer les pays en développement en leur donnant des quotas unilatéraux à sens unique ou non contraignants d'une certaine manière. Pour limiter le problème, il y a l'Europe qui met en place une politique climatique à considérer et rejeter l'idée d'ajustement aux frontières. Olivier Godard va revenir là-dessus. Hein. Il y a aussi des problèmes de possibilité d'accords sectoriels mondiaux. Je crois que j'ai à peu près épuisé mon temps de parole, donc je vais m'arrêter là.
Merci. Merci, professeur, pour ce tour d'horizon très, très éclairant. Je vais maintenant passer la parole à Olivier Godard. Vous allez vous mettre là-bas.